Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro.
The 16th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues.
Les travaux de l'instance permanente sur les questions autochtones ont commencé en cette fin du mois d'avril au siège de l'ONU à New York. La session a pour thème 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mesures prises pour mettre en œuvre la déclaration.
Bonjour, mon nom est Mariam Walet Aboubakrine Tarlasem.
L'occasion pour Escale de recevoir Mariam Walet Mohamed Aboubakrine, la présidente de cette 16e session, et de faire le bilan des 10 premières années de ce cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité, le bien-être et les droits des peuples autochtones du monde entier.
Alors oui, c'est vrai, 10 ans de passé, mais ces 10 ans sont le résultat de plusieurs décennies de combats, de plaidoyers en faveur de l'adoption de la déclaration. Puis cette adoption a été réelle le 13 septembre 2007, qui fut une grande journée pour les peuples autochtones de par le monde. Maintenant, 10 ans après, il y a eu lentement des avancées. Déjà, c'est un cadre légal international pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Puis, il y a eu plusieurs pays dans toutes les régions du monde qui ont intégré la déclaration dans leur constitution ou certains articles de la déclaration. Ensuite, maintenant, au niveau du système des Nations Unies également, il y a eu la conférence mondiale sur les peuples autochtones en 2014 pour mieux mettre en œuvre la déclaration au niveau des pays, pour qu'il y ait une descendance, une verticalité de ce qui se décide ici au niveau international à ce qui se fait par les organes des Nations Unies au niveau local, au niveau national des pays.
Est-ce que vous avez des exemples concrets d'avancées qui ont pu impacter directement certains peuples?
Alors, par exemple, au Canada, la Commission Vérité et Réconciliation a intégré dans ses 94 recommandations plusieurs éléments de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et est à la base même de la construction de ces 94 recommandations. Si nous allons, par exemple, en Afrique, il y a le Congo-Brazzaville qui a intégré une loi dans sa constitution sur les droits des peuples autochtones. Donc ça, c'est un grand pas, notamment sur le continent africain, où on ne parle même pas de peuples autochtones. Donc déjà, c'est une reconnaissance des peuples autochtones. Et ensuite, c'est un pas dans la mise en œuvre de la déclaration. Il y a également la République centrafricaine qui a fait des efforts dans ce sens. Le Tchad qui a adopté dans le système éducatif et de santé une politique pour que cela soit plus accommodé aux peuples nomades qui sont les autochtones au Tchad.
C'est des initiatives qui permettent notamment de donner accès à l'éducation et à la santé?
Oui, parce que souvent, les peuples autochtones nomades dans certains endroits, dont le Tchad, mais également dans mon pays, leur mode de vie ne permet pas d'avoir accès au système de santé ou au système de l'éducation. Et il faudrait que le système s'adapte au mode de vie des populations. Et dans ce cas, il y a eu la révision de ces systèmes pour qu'ils soient adaptés au mode de vie nomade, donc aux peuples autochtones. Et ça, c'est le résultat d'un plaidoyer inspiré de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Mentionnez le Mali, donc votre pays. C'est un pays qui peine à mettre en œuvre un accord de paix, notamment suite à la division du Nord Mali et des revendications. On a vu aussi récemment des concertations nationales. Qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous? Où en sommes-nous justement par rapport à ce raccord et à ces revendications, à la réconciliation de ces différences?
Tout d'abord, la mise en œuvre de l'accord de paix n'est pas seulement freinée par le fait qu'il y ait une revendication de division nord-sud. Ça va bien au-delà de cela. Au début et précédemment, vous savez, nous en sommes à la 4e rébellion Touareg. Mais cette fois-ci, le fait est que ce n'est pas seulement une revendication Touareg pour les services de base comme la santé, l'éducation, les infrastructures de base, les routes, etc. Mais ça va au-delà de cela. Cette fois-ci, la crise qui a commencé en 2012, mais qui était insidieuse, elle était là. C'est qu'il y a eu d'autres éléments qui ont proliféré au nord du Mali. Et cela s'est passé sous silence des gouvernements successifs du Mali, ce qui a abouti à une situation complexe maintenant, qui n'est pas une situation comme celles qui sont connues de juste une revendication de peuples autochtones à plus de droits. Mais là, il y a d'autres groupes qui se sont ajoutés à cela.
Vous parlez de ceux qu'on appelle les extrémistes?
Il y a ceux-là, il y a des trafiquants, il y a d'autres groupes que je ne saurais... c'est une nébuleuse de groupes indéterminés pour moi. Donc, je ne sais pas exactement les alliances, ce qui se fait, mais c'est des alliances plus monétaires, économiques, quoi. Donc, c'est ça, tout est une question de, excusez-moi, le terme de deal dans cette région actuellement. Donc, ça, c'est une chose. L'autre, concernant la conférence d'entente qui a eu lieu récemment, enfin, il y a juste un mois de cela, c'est une belle chose parce que pour pouvoir se réconcilier, il faut se parler. Parce qu'au Mali, nous avons aussi besoin d'une commission vérité et réconciliation comme celle qui a eu lieu au Canada. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en une journée ou en deux ans. C'était un long processus où il faut écouter les gens, pas juste une journée de dialogue. Il faut que les gens puissent s'exprimer, puissent extirper toute la douleur qu'ils ont en eux, puissent savoir qu'ils sont écoutés, ils sont entendus et qu'il y a de la compassion à leur perte. Donc, c'est cela seulement qui va amener une vraie entente et un vrai dialogue, pas en une journée. Et pour ce dialogue, il faudrait également impliquer toutes les parties. Il faudrait que la société civile soit impliquée et que ses représentants soient là, qu'ils sachent vraiment ce qui se passe et qu'ils aient l'information, comme c'est bien dit dans la déclaration. Nous avons besoin, non seulement pour les ressources, mais pour toute décision nous concernant, il faut le consentement préalable et éclairé. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas été incluses. Moi, je n'ai pas été invitée à cette table, mais pas moi seulement. Je pense à tous les réfugiés. Quelle est la représentativité des différentes personnes qui étaient à ce dialogue? Mais c'est intéressant, c'est un pas quand même. J'encourage ce type d'espace au Mali.
Alors, revenons aux 10 ans de la déclaration, on a revu un peu des avancées. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Qu'aimeriez-vous voir dans 10 ans?
Alors, nous, on aimerait dans 10 ans pouvoir vraiment utiliser la déclaration comme un instrument effectif, réel. Bon, il l'est déjà, mais il faut que les peuples autochtones ne soient plus froids de pouvoir avoir recours dans les procédures judiciaires à la déclaration. Il faut qu'ils puissent sans gêne le faire. Mais également, il faut que dans les États, il y ait cet espace-là, dans les structures judiciaires, pour que les peuples autochtones puissent vraiment avoir le pouvoir de le faire. Parce que hier, j'entendais une parlementaire autochtone qui nous rapportait une situation où des peuples autochtones qui faisaient recours à la déclaration étaient mis en prison et avaient des traitements pire que ceux de délinquants dans une prison. Donc, c'est cela. Il faut cette ouverture. Il faut dépasser les niveaux de reconnaissance politique seulement. Nous voudrions l'avoir dans la vie de tous les jours des peuples autochtones. Et là, ça, ce serait le bilan qu'on aimerait avoir dans 10 ans.
cette 16e session, il y a un volet important de cette 16e session qui est dédié à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Pourquoi ?
Depuis quelques années, nous mettons en avant les femmes et les jeunes autochtones, notamment leur autonomisation, parce que tout simplement, nos sociétés autochtones, que ce soit celles avec conflit ou celles qui ne vivent pas de conflit, ce qui est rare, parce qu'il y a plusieurs types de conflits pour nous, que ce soit les conflits de ressources naturelles ou d'autres types de conflits, mais dans tous les cas, la femme dans la communauté autochtone est un pilier incontournable. C'est la pièce maîtresse de la communauté autochtone. Si nous voulons que nos communautés se renouvellent, il faudrait que nos femmes soient fortes, soient en santé, soient éduquées, soient économiquement autonomisées. Donc ça, c'est un élément. Ce sont elles qui sont les garantes de la transmission de notre culture, de nos valeurs et de nos savoirs. Et souvent, c'est la femme dans la communauté autochtone qui vaque aux travaux, que ce soit à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur, dans les communautés rurales pauvres, reculées, autochtones. Ce sont elles qui font l'agriculture, par exemple, qui vendent les produits de leurs agricultures. Il en est de même pour les communautés pastoralistes. Ce sont elles qui gèrent le lait et les produits du lait. Donc, sans la femme autochtone, il n'y a pas de développement des communautés autochtones et il n'y a pas de continuité de la communauté autochtone.
Et les jeunes?
Les jeunes, c'est aussi l'avenir de nos communautés. Les jeunes, c'est la force de la communauté, mais c'est le devenir aussi de la communauté. Et de plus, nous remarquons que les jeunes autochtones sont très vulnérables parce que ce sont eux qui doivent aller étudier parfois à l'extérieur de leur communauté, dans d'autres centres, puisque vous savez, dans nos communautés, très souvent, on n'a pas accès à plus que les secondaires dans nos communautés. Même dans certaines, c'est moins que les secondaires. Donc, même pour l'éducation formelle, il faudrait qu'ils se déplacent. Et quand ils se rendent dans d'autres endroits, comme dans des milieux urbains, ils sont encore plus vulnérables. Donc, nous avons besoin de les renforcer, de leur créer des structures d'accueil fortes qui tiennent compte de leur identité pour qu'ils s'éduquent et aient une identité plus forte. Un autre élément concernant les jeunes autochtones, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les jeunes autochtones sont la rusée de tous les trafics, que ce soit les drogues, on voit plus ça au Canada. Vous voyez dans les rues des grandes, en Saskatchewan ou à Montréal même, la plupart des itinérants, c'est des jeunes autochtones. Donc, des situations inadmissibles. Si on retourne dans ma région, dans le Sahel-Sahara, maintenant les jeunes autochtones, par exemple les Touaregs, ils sont recrutés comme des mercenaires. Ils sont sujets à être recrutés par toutes sortes de trafiquants.
Donc, c'est les seules options qu'ils ont?
C'est les seules options qu'il y a pour eux. Ils ne peuvent pas envisager un autre avenir. Ils ne peuvent pas avoir accès à l'éducation. Ils ne peuvent pas avoir accès à un renforcement de capacité pour pouvoir s'en sortir autrement. Or, c'est eux aussi la continuité, comme les femmes. Demain, les générations actuelles seront plus là, ce sont eux qui vont être là. C'est aussi eux les futurs décideurs pour nos communautés. Il faudrait définitivement mettre un accent sur les femmes et les jeunes autochtones pour des communautés autochtones émancipées, développées, pour que les choses changent pour ces couches de nos communautés, pour nos aînés, pour nos enfants, toute la communauté en fait.
On marque les 10 ans. Vous avez évoqué cette longue histoire de décennies pour y arriver. Vous avez même porté votre connaissance au chef Little Child, qui a consacré des décennies de sa vie à ce parcours. Qu'en est-il de votre parcours? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, après vous être impliqué pendant autant d'années et suite à votre propre engagement?
Vous savez, dans la vie, il y a des échelons à monter. Et la vie, c'est un apprentissage continuel. Donc, j'apprends continuellement et plus j'atteins un pas, mieux je suis encore plus engagée parce que je vois que le but est proche et je vois les changements que mon engagement apporte aussi bien à ma communauté qu'à tous les peuples autochtones. Cela m'encourage beaucoup à être encore plus engagée. Et quand je regarde des personnes très inspirantes comme l'honorable chef Wilton Child, mais également l'honorable chef Edward John ou la doctoresse Dali Sambo, Bodoro, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Et quand je regarde la situation de ma communauté, quand je regarde que près de la moitié de ce que je suis vit dans des camps de réfugiés ou vit dans une errance sans se retrouver dans son mode de vie qu'il reconnaît, alors je ne peux que continuer d'être engagée.
Et c'est avec ces propos de Maria Mualet Mohamed Aboubakrine que se referme ce magazine Escale consacré aux 10 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.